Nous commençons par lire dans Jean 12, 23 à 28. Jean 12, 23 à 28. Jean 12, 23 à 28. Notre thème, c'est entraînement et événement. Les vrais chrétiens, voilà, se reconnaissent quelque part là-bas. Entraînement et événement. Et nous lisons donc Jean 12, 23.
Je lis au nom de Jésus. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore.
Amen. Amen. Jésus, lorsqu'on vient le chercher, hein, on lui a dit au verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Donc c'est le moment où il doit aller à la croix. Parce que quand Jésus dit glorifier, c'est-à-dire c'est le moment où il doit être crucifié. Nous voyons déjà une grande différence entre nous, hein, notre raisonnement, notre acception des choses, et Dieu. Parce que Jésus dit, c'est l'heure où je dois être glorifié. Or, cette heure-là, c'est l'heure de la crucifixion. Comment il peut appeler une telle heure l'heure d'être glorifié ? Que cela nous parle. En vérité, et il s'explique, il dit aux gens qui étaient là, il dit, il faut que le grain de blé meure. Et s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe dans la terre et il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il leur explique donc qu'il aille à la croix n'est pas une défaite, c'est la semence du grain de blé afin de porter beaucoup d'autres humains. C'est pourquoi on a chanté « Dieu aide-moi à t'atteindre » parce que ce sont des notions très, très, très importantes et mon souci vraiment, c'est que le Seigneur intègre ça en nous. Lui-même, il appelle le temps d'aller à la croix. Il appelle ça le temps de sa gloire. Mais combien de fois n'avons-nous pas été tristes de nos apparents échecs? Quoique étant dans la volonté de Dieu, ne produisant qu'un résultat parfois maigre. Et on s'est plaint. Parfois on n'a pas parlé, mais nous sommes entrés dans la tristesse. Nous avons oublié que ce n'est pas nous qui allons être la preuve de l'existence de Dieu, ou pas. Dieu existe. Il n'a besoin de personne pour s'affirmer comme tel, mais c'est dans sa discrétion, dans sa souveraineté, qu'il a choisi de s'exprimer à travers nous. L'erreur, c'est de diminuer Dieu parce que nous, on se sent diminué. Et là, Jésus dit, l'heure de ma gloire arrive, l'heure où je vais être diminué. Et ce n'est pas facile. On n'est pas en train de dire que c'est facile. On est en train de dire que c'est le système de Dieu. C'est le nouveau système de Dieu. Après, des héros comme les Samson qui cassaient tout, qui triomphaient par la force, Dieu amène de nouveaux héros qui vont triompher par l'amour et la simplicité, qui vont triompher dans les souffrances et dans les tribulations. C'est ça que nous devons comprendre. Comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Aide-moi à t'atteindre. Il veut qu'on atteigne ce niveau-là, cette stature-là. Et il dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. On doit être prêt à mourir pour sa foi, on en a déjà parlé. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Bien-aimé, je répète, nous ne sommes pas en train de dire que c'est facile. Parce que là même, le Seigneur est troublé. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Son âme est troublée. Il a envie de dire, Dieu, est-ce qu'on ne peut pas changer de programme? C'est trop dur. Est-ce qu'on ne peut pas changer d'épreuve? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter le processus de la souffrance jusqu'à la croix? Mais il serait saisi. En pensant à quoi? Il serait saisi en pensant que sa mission était celle-là. Donc quand lui descendait du ciel pour venir sur la terre, entre lui et le Père, l'objectif c'était, il avait dit, c'est écrit dans Isaïe 59, 16, Dieu cherche quelqu'un pour intercéder, il ne trouve personne et son bras lui vient en aide. C'est écrit aussi dans Psaume 40, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Et je me suis dit, envoie-moi. Pourquoi? Pour que moi je sois le sacrifice. Donc c'est écrit que quand le Fils vient, il s'est entendu avec le Père, je vais être sacrifié pour les humains. Maintenant, quand le moment arrive, lui-même il tremble. Il dit, oh, comme c'est dur. Mais il dit, mais c'est pour ce moment que je suis venu. Donc tous les autres temps, c'était quoi? C'était l'entraînement. C'est ça notre thème. L'entraînement et l'événement. L'entraînement, c'est une série d'activités que tu mènes afin de t'exercer pour pouvoir faire face à certains événements. Il y a des pompiers qui font des entraînements, des simulations de feu dans les écoles. On essaye pour que le jour où il y aura un vrai feu, on puisse faire face. Mais aujourd'hui, les chrétiens se sont laissés distraire par l'entraînement et ils ont oublié qu'il va y avoir des événements. Au fait, on les entraîne pour des événements et eux, ils oublient ça. Et le Seigneur a failli être déstabilisé. Il s'est dit, mais non, tout le temps où j'ai fait des miracles, tout le temps où j'ai affronté les pharisiens, c'était l'entraînement, c'était les entraînements. C'était les activités. Maintenant, il faut faire face à l'événement. Et je ne veux pas fuir. Je suis venu pour cet événement-là. Bien-aimé, il y a une différence entre les activités et les événements. Les activités, c'est toi qui les décides. C'est toi qui dis oui et tu fais, mais les événements tombent sur toi. Tu ne les gères pas. Quand les pompiers font leurs entraînements, il n'y a pas le feu. Ou bien ils créent eux-mêmes le feu. Mais quand il y a un vrai feu, là on a vu la tour à Londres, ils n'ont pas réussi, 79 morts. Là, c'est le vrai feu. Quand il y a les entraînements de football ou de basketball, c'est les entraînements, tu peux briller, être le champion des entraînements. Mais le public retiendra ce que tu vas faire les jours des matchs. Je me souviens, à une époque, la France était championne en matchs amicaux, dans les matchs amicaux. Donc, ils étaient les meilleurs. Et quand venait la compétition, on oubliait. Hein, donc, éliminés, on se moque d'eux. Pourtant, ils venaient de gagner 12, je crois à l'époque, c'était 12 matchs amicaux. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'événement. Quand vient maintenant la compétition, quelque chose que tu ne contrôles pas. Ce n'est pas toi qui vas dire, je vais rencontrer telle équipe. Il y a un tirage au sort. Tu ne contrôles pas. C'est ça l'événement. L'événement, ça vient. Mais même si tu te prépares pour l'événement, quand il vient, tu ne contrôles pas. Mais Aujourd'hui, nous voulons que chacun fasse comme le Seigneur. Se souvienne que nous avions été entraînés, nous avons fait des activités pour ces événements-là. Donc quand ces événements arrivent, après avoir prié avec les bien-aimés, tu as chanté « Alléluia » et que tu rentres chez toi, on te reçoit avec un mauvais langage. On te reçoit en te disant « J'ai pas eu le temps de préparer, d'ailleurs je suis fatigué de ton Jésus. » Et que toi tu réponds par une gifle. Tu n'as pas compris que ce que tu faisais dans l'assemblée, c'était la préparation pour affronter le langage que tu allais trouver dans la maison. Mais beaucoup échouent parce qu'ils oublient, parce que l'activité, les entraînements ont pris la place de la transformation pour un événement. Le but des activités, le but des entraînements, c'est nous édifier, nous transformer pour faire face à des événements. Et aujourd'hui, on se concentre plus sur les activités, sur l'entraînement. Ce n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs obligatoire, il faut les entraînements. Il faut les activités. C'est obligé. Mais il ne faut pas oublier le but ultime. Le but final, c'est faire face à un événement. C'est sauver des vraies vies. Vous savez, quand les gens font des manœuvres militaires, les entraînements militaires, ça s'appelle des manœuvres militaires. Mais on ne tue personne parce qu'on est entre nous, on fait la guerre, donc on fait semblant de faire la guerre. Mais quand il y a une vraie guerre, tu as face à toi des gens qui veulent te tuer. Hein, et ils ne veulent pas, ce n'est pas des manœuvres. Ils sont déterminés, décidés. Et toi, tu vas les aborder avec légèreté. Donc, tu n'as pas compris les manœuvres militaires. Les manœuvres, c'était de te préparer à cette réalité-là. Tu feras face à des vrais, vrais, vrais adversaires qui veulent ta mort. C'est-à-dire, dans les événements, il y a un qui doit mourir. Ou c'est toi, ou c'est l'autre. Quand tu fais face au feu, soit c'est le feu qui est maîtrisé et toi tu vis. Soit c'est toi qui passes. Quand tu es dans un match de football, ou c'est l'autre équipe qui est éliminée, ou c'est toi. C'est ça les événements. Il n'y a pas de pitié. C'est la guerre. Mais dans les entraînements, il y a la compréhension. Il y a une certaine lutte. Mais ce n'est pas encore une lutte à mort. Quand on vient prier, on vient chanter, on vient écouter la parole, il y a une certaine lutte parce que parfois on vient contre notre volonté, parce que bon, on m'a entraîné à la maison par les gens qui étaient à la maison, je suis venu. Parfois on vient fatigué, sans goût. Et on lutte pour entrer en communion avec Dieu. En nous humiliant. Mais ce n'est pas une lutte à mort. Mais va venir un jour où on va chercher vraiment ta mort. Et donc, tous ces entraînements-là, c'est pour servir à ça. Donc, Jésus dit, mais je suis venu pour ça. Donc, le premier point, c'est ça. C'est que le Seigneur nous a préparés à des choses. Il nous a préparés pour des événements. Et c'est pendant ces événements que nous allons faire avancer le royaume de Dieu. Et deuxième chose, le Seigneur nous a préparés, nous a donné la parole, nous a expliqué les choses, nous a fait vivre des petites épreuves pour nous exercer à marcher par la foi. C'est ce qui est écrit dans la parole. Dans Deutéronome chapitre 8, qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit, je t'ai fait marcher 40 ans dans le désert. Tu n'as pas. Il n'y avait pas forcément de guerre, pas toujours. C'était une paix relative quand même, il n'y avait pas trop de guerre. Donc tu n'as pas connu vraiment de lutte à mort. Mais tu étais quand même dans le désert. Toutefois, tes sandales ne se sont point usées. Tu n'as pas manqué de quoi manger. Mais c'était quand même le désert, un lieu difficile. Mais ce n'est pas encore la lutte à mort. Mais il a dit, je t'ai fait connaître le désert ainsi pour t'apprendre à que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a pas de champ de maïs, il n'y a pas de champ de blé. Je voulais t'apprendre que la parole de Dieu peut te faire vivre. Donc tu peux vivre par la foi. Aujourd'hui, nous, on dit vivre, marcher par la foi, vivre par la foi, c'est vivre par la parole de Dieu. Donc je t'ai fait connaître le désert dans cet objectif-là. Et maintenant qu'il faut aller conquérir la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit c'est des géants. On ne peut pas. Ils sont trop forts. Donc Dieu dit 40 ans d'entraînement, mais vous n'avez toujours pas compris la foi. Vous n'avez toujours pas compris. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Tout ce temps d'entraînement doit nous amener à comprendre que Dieu nous appelle à marcher par la foi. C'est-à-dire, tu n'as pas les choses que tu attends, mais tu vis comme si tu les avais. C'est-à-dire, malgré le fait que la situation est négative, faire confiance à la fin, donc que Dieu a déjà dessiné dans sa parole. Le Seigneur a dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Le Seigneur a donné la fin de tous les événements. Il nous demande, sans comprendre les processus, de croire toujours que cette fin sera celle qui est décrite dans la parole. Je me souviens d'un pasteur américain qui avait fait un songe. Ce songe symbolisait la guerre entre deux armées, l'armée du Seigneur, composée des chrétiens et des anges invisibles, et puis l'armée de Satan. Et dès que le combat commençait, c'était sous forme d'un stade. Dès que le combat commençait, c'était comme un match de baseball. Je donne une certaine correspondance avec le foot pour qu'on comprenne. Dès que le match commençait, les chrétiens étaient menés 6-0. Un exemple comme ça. Et puis, le rêve s'est arrêté. Il n'a pas vu la suite. Il s'est réveillé tout triste. Il a dit, Dieu, mais comment on peut vraiment être mené? Mais c'est fini, on va perdre. Comment, que faire? Montre, pourquoi tu ne m'as pas montré la fin du songe? Dieu lui dit, la fin se trouve dans ma parole. La fin de tout événement est dans la parole de Dieu. Et quand je dis événement, ça peut être aussi les missions que Dieu te confie. Parce que quand Dieu te confie une mission, c'est comme les événements. On sait à peu près, le feu peut venir de telle manière et on s'entraîne pour parer au feu. Dieu te confie une mission, tu sais à peu près ce que tu dois faire, mais tu ne sais pas tout, tu ne maîtrises pas. Et parfois, il y a des surprises. Comme les bien-aimés, ils étaient au Gabon. Mais au moment de partir, quelques heures avant, quelqu'un vient dire, écoutez, mais moi j'ai été convaincu par les enseignements qui ont été prêchés, je crois, quelques jours précédents. Et maintenant, je vais m'engager à suivre le Seigneur. Mais on lui dit, mais attends, tu étais avec nous pendant tous ces jours-là. Ben oui, mais là, c'est hier que je me suis... Vraiment, j'ai été touché, je veux me faire baptiser. Donc, ils étaient obligés de le baptiser. Hein. On ne va pas dire, ben là, c'est trop tard, on a un avion. Ils étaient obligés. Donc, c'est ça la mission. C'est un événement. Tu n'as pas tous les éléments. Tu sais, à peu près, on m'a demandé d'aller prêcher, d'aller faire... Mais tu ne maîtrises pas. C'est des événements. Et Dieu, pendant tout le temps où nous avons nos activités, acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Et pendant ce temps-là, Dieu rajoutait des gens à l'église. C'est-à-dire que même pendant les entraînements, Dieu agit. Pendant les activités, Dieu agit. Mais il nous prépare à des événements plus élevés encore. Plus élevés. Qui vont faire exploser la machine. Il nous prépare à cela. Et on le voit dans les actes des apôtres. Les activités ont permis aux chrétiens de grandir en nombre, de répandre la parole. Pas de problème, mais c'était seulement où? À Jérusalem. Et dans Actes des apôtres, au chapitre 8, événement, persécution. Les chrétiens ont les chassés de partout. Ils ont fui, ils sont partis de gauche à gauche, à droite. Et Philippe, dans cette persécution, dans cette fuite, il se retrouve où? À Samarie. Pourtant, quand ils étaient dans les activités et l'entraînement, c'était seulement Jérusalem. Dieu agissait, on n'en disconvient pas. Puisqu'il est dit que le nombre s'ajoutait. Il est dit que même les gens, ils ont bouleversé Jérusalem de leurs enseignements. Ils ont dit même que Étienne convertissait même des sacrificateurs, mais tout ça c'était Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est une petite ville. Dieu leur avait dit dans Actes 1:8, allez et faites et toutes les nations, allez plutôt commencer à Jérusalem et puis Samarie, dont le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Mais eux, dans leurs entraînements, activités, ça marche. Vous savez, l'entraînement du Seigneur, on est dans un endroit, il n'y a pas de risque de mort, tout se passe bien, on arrive à convertir des sacrificateurs, on prie, on loue Dieu. Dieu agit, c'est les entraînements, mais ça reste des activités, ça reste des entraînements. Viendront des événements que nous, on n'a pas calculés comme il faut, même si on sait que ça peut venir. Et dans Actes, l'inverse, 8, 1, l'événement arrive. Persécution générale. Ils vont à gauche, à droite. Et Philippe se retrouve à Samarie tout seul. Une seule personne y convertit toute une ville. Une seule personne. Donc, vous vous rendez compte de la puissance des événements, mais aussi de la qualité de l'entraînement. Donc, Philippe était vraiment sérieusement entraîné. De sorte que quand l'événement est arrivé, il a fait face, une seule personne a converti toute une ville. Aujourd'hui, Dieu nous dit, c'est écrit dans sa parole, il y a des activités, prier sans cesse, et méditer la parole jour et nuit. Oui, mais il y a aussi les événements. Il nous dit dans Actes 14, qu'on va lire Actes 14, 19 à 26. Actes 14, 19 à 26.
Je lis au nom de Jésus. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie.
Amen. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit ? Le lendemain, Paul est frappé, tapé jusqu'à la mort. Mais par la puissance de Dieu et les prières des frères, il se relève. Et c'est lui qui est frappé jusqu'à la mort, qui va aller encourager les autres, leur expliquer que c'est vrai, notre Dieu est tout-puissant. C'est vrai qu'il est bon. Mais il a choisi de triompher par des événements difficiles contre nous. Il leur dit, au verset 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous l'avons déjà dès qu'on croit au Seigneur Jésus. Mais quand on entre dans le royaume de Dieu, on devient directement missionnaire de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu et destiné à produire des fruits et la gloire de Dieu. Et cela passe par beaucoup de tribulations. Non pas que Dieu se plaît à nous voir souffrir, mais non, parce que Ce qui va faire la différence entre le mal et le bien, c'est le grand niveau de bonté du bien. Je me répète en quelque sorte, mais il faut que je parle comme ça. Il faut que la bonté se révèle être vraiment bonne pour confondre le mal. Donc quand on le tape jusqu'à la mort, le mal est démontré. Le mal est mauvais. Quelqu'un qui vous prêche, qui vous parle et vous le tapez. Il ne vous a pas volé quelque chose. Il ne vous a pas menti. Il vous parle de Dieu. Mais pourquoi vous le frappez? C'est là qu'il prouve que lui, il est bon. Vous, vous êtes mauvais. Vous êtes vraiment dans le faux. Vous tapez quelqu'un qui parle. Jusqu'à le tuer. Donc, et c'est de cette manière que la puissance divine se manifeste glorieusement. C'est ce que le Seigneur nous apprend. Et que nous devons accepter. C'est ça le chemin du chrétien, c'est le chemin de Christ. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume. Non pas que c'est les tribulations qui nous qualifient. Non, c'est le chemin plutôt. C'est-à-dire, tu as déjà le ticket pour le royaume de Dieu, mais le chemin que tu traverses, c'est un chemin rempli de tribulations, mais toi, tu as la victoire parce que tu as le ticket. Ton ticket, c'est ta victoire. Malgré ces tribulations-là, à chaque fois que tu vas sortir ton ticket, ça va passer. Mais tu vas connaître ces tribulations tout en triomphant à chaque fois. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est il faut accepter cette façon-là que Dieu a décidé de manifester dans notre marche chrétienne afin que nous soyons vraiment heureux et victorieux. Si on n'accepte pas ça, on n'a pas saisi le véritable évangile. Ce n'est pas beaucoup de tribulations. Le Seigneur lui-même dit quoi dans Jean 16, 33 Frère Siméon, Jean 16, 33. Il dit quoi?
Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Amen. Vous aurez des difficultés, des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, les chrétiens veulent rester dans l'entraînement, dans les activités. Vous savez, dans l'entraînement, même si tu fais face aux meilleurs joueurs du monde, mais c'est l'entraînement. C'est ton ami, c'est ton copain d'équipe. Mais affronte-le dans un vrai match. Affronte-le dans un vrai match. Vous savez, nous, on avait des amis. Moi, j'étais défenseur, lui, attaquant. Et dans nos entraînements, j'avais l'impression qu'il n'était pas fort. Mais maintenant, quand on se séparait, on était vraiment dans un match. Par exemple, on disait les économistes contre les juristes. Donc, on se séparait. C'était plus un entraînement, c'était un match. Là, c'est là que tu te rends, mais il est fort. Parce que là, c'est devient un ennemi. C'est là qu'il sort vraiment sa force. Ne restons pas dans l'entraînement. On vient prier, chanter. Pas. Dieu nous amènera dans les événements, dans la pratique. Il faut passer de l'entraînement aux événements. Sachant que les événements, en général, ça va être quelque chose de contraire à notre élan. Mais en Christ, nous avons la victoire. C'est ça. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Mais maintenant, nous, quand les événements arrivent, les tribulations arrivent, on commence à philosopher. Au lieu de dire, mais c'est pour cela que Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé pour faire face à ça. Je vais vous donner encore un autre exemple. Quand on a décidé de tuer tous les Juifs du temps d'Esther, Mardoché dit à Esther, ben va voir le roi pour notre cas. Puisque Esther, c'était la femme, la reine, la femme du roi. Elle était aussi juive. Elle apprend qu'on veut tuer tous les juifs par le premier ministre. Maintenant, elle veut cacher son origine pour rester vivante. Parce qu'elle se dit, si je vais affronter le roi sans sa permission, parce qu'il y avait une règle, tu n'entres pas chez le roi sans qu'il t'appelle. Si tu entres chez le roi alors qu'il ne t'a pas appelé, il y a deux possibilités. Soit il proclame la vie, tu peux parler, soit il proclame la mort. Et comme le roi était en colère, à cause de sa première femme qu'il avait déçue. C'était la mort, donc il fallait surtout pas le déranger sans que lui ne te fasse appeler. Et on dit à Esther, va déranger le roi, va parler de notre cas. Esther dit à son oncle, ah c'est compliqué, hein, moi je risque la mort si je vais là-bas. Mais Mardoché lui dit, attends Esther, toi tu n'étais qu'une orpheline juive, c'est moi qui t'ai recueilli, je t'ai élevé. Est-ce que toi tu mérites d'être reine? Tu n'es qu'une orpheline. Est-ce que ce n'est pas pour nous protéger que Dieu t'a mise reine? Réfléchis, peut-être c'était parce que Dieu avait déjà vu l'événement de la mort de tous les Juifs et il t'a mise reine pour parer à cela. Et Esther a compris. Elle s'est dit, ah, c'est vrai, parce que selon mon parcours et mes origines, je n'ai pas à être reine. Donc si je me retrouve reine, c'était pour qu'un jour je sauve tous mes frères et sœurs juifs, pour que j'aille affronter le roi au risque de ma vie. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Nous allons tous prier. Jeûne et prière de 3 jours, et après ça, j'irai affronter le roi. Et quand elle est partie affronter le roi a proclamé la vie. Esther a parlé pour la cause des Juifs. Les Juifs étaient sauvés. Ça, c'est un événement. Et qu'on négocie selon Dieu. On ne reste pas dans l'activité. Tu es là, tu es reine, mais pourquoi tu es reine? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous lisons la parole? Ben c'est pour faire face à des événements que Dieu a préparés afin de nous donner des victoires retentissantes. Pourquoi nous prions et nous lisons la parole? Pourquoi nous avons des petites épreuves dans nos vies de tous les jours? C'est non seulement pour nous préparer aux grands événements, c'est aussi pour nous apprendre, comme on l'a dit, à marcher par la foi. C'est un exercice qu'on doit pratiquer, marcher par la foi. Et on va te donner des épreuves qui courent le risque de 50 euros, 100 euros. Et Dieu regarde ta réaction. Est-ce que tu arrives à marcher par la foi? Et quand tu es exercé dans les épreuves de 50, 100 euros et tu as triomphé par la foi, eh bien le Seigneur peut t'amener dans des plus grandes épreuves. Là où il y aura des risques de 10 000 euros, de 50 000 euros, et tu tiendras parce que tu as été entraîné. Mais maintenant, quand viennent ces grandes épreuves, tu oublies tout ton entraînement, tu paniques, mais tu n'as pas compris les choses. Tu es resté dans les activités, dans l'entraînement. Bien-aimés, nous devons passer des activités, de l'entraînement à la réalité, aux événements et triompher pour faire avancer largement le royaume de Dieu. C'est ce qui manque. Aujourd'hui, c'est ce qui... il manque des missionnaires. Pourquoi? Parce que les gens restent dans les activités et les entraînements. On est là, on prie. Allez, on est des bons chrétiens et ça s'arrête là. Ah non, il n'y a pas de gens qui prennent des risques. Le Seigneur veut nous voir et bien entraîner, c'est vrai, mais c'est pour finir dans la réalité et les événements. Combien on s'est réjoui le mercredi, mais après avoir connu le soleil terrible, mais plus que cela, la musique forte, je ne sais pas si on doit appeler ça, ce n'est même pas la musique, techno c'est pas la musique, c'est du bruit intense et tout ce qui venait était perturbé. Comment on va s'en sortir avec ces gens-là qui ont mis, et d'ailleurs eux-mêmes ils nous ont annoncé, ils nous ont dit mais avec votre guitare sèche vous ne faites pas le poids, nous on a 8 kilowatts de matos, on va vous avaler. L'ancien Jean-Luc a dit, mais nous, on a Dieu. Voilà. Donc, on verra ce qu'on verra. Bien-aimé. Mais cet événement-là nous a redonné la vie. On était habitué au fait de la musique, tout était bien mesuré, calculé, tout est bien. Et les gens viennent en famille, comme si on allait promenade des Anglais à Nice. Là, hier, à mercredi, tout le monde a dansé parce que les gens se sont dit, mais on a gagné. Ils ont compris. Donc, l'odeur du danger, quand tu es sauvé de ça, Parce que tout le monde qui venait, venait à tête basse. Comment on va faire avec ce bruit-là de 8 kilowatts? Mais quand on a attaqué, les gens disent, oh, Dieu existe. Il existe. Le camp ennemi était siphonné. Mais surtout, les chrétiens ont retrouvé du courage. Ils ont compris que leur Dieu est tout puissant. Mais si c'était les mêmes toujours, on ne néglige pas les autres fêtes de musique. La musique. Mais on veut dire, mais c'était des entraînements pour celle du mercredi. C'est ça, bien-aimé. Où une voix douce te dit, vous ne pourrez pas faire face à tout ça. C'est trop fort leur musique. Vous ne pourrez pas faire face. Mais Dieu veut justement se glorifier dans ces tribulations-là. Mais nous devons comprendre le système de Dieu. Nous devons sortir des activités, des entraînements pour les événements. C'est important. Sinon, tu vas tourner en rond dans la distraction. Le Seigneur veut des travailleurs, des gens qui vont prendre des risques. Il y a des gens qui mesurent tout, qui calculent tout. Mais bien-aimé, là, il y a des moments où tu n'as pas le temps même de réfléchir pour prendre la décision. Bien-aimé, le soleil était tellement fort qu'on n'avait même pas le temps de réfléchir pour prendre la décision. Que faire? C'était ce que Dieu avait dit à Gédéon. Soyez seulement là. On est arrivé à 16 heures parce qu'ils ont commencé ça depuis 10 heures, le matraquage. Donc, on arrive à 16 heures, l'heure du rendez-vous pour la prière des choristes. Je dis, mais donnez-moi le micro. On n'a pas l'habitude de faire ça puisque c'est la prière d'intercession, c'est entre nous chrétiens. Mais comme leur bruit était trop fort, j'ai demandé le micro. Bien aimé, curieusement, mais ma voix a submergé leur bruit démoniaque. Mais plus encore, cette prière a été entendue à 1 kilomètre à la ronde. Et je priais comme on a l'habitude de prier ici. Seigneur, détruis les œuvres de ténèbres à Rouen. Nous voulons voir les gens se convertir. Et imaginez que ça s'entende à des kilomètres à la ronde. Les gens étaient à la voiture, entendaient, mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais voilà, ils ont entendu. Mais s'il n'y avait pas eu l'opposition, je n'aurais pas utilisé le micro. On aurait prié à basse voix comme d'habitude. Mais il n'y a même pas le temps de réfléchir. J'ai dit, donnez-moi le micro. Ce n'est pas quelque chose de calculé, mais le bruit était tellement fort qu'il y a, voilà, l'Esprit Saint utilise sans même t'en rendre compte. Mais il nous demande un minimum de dire, Dieu nous a envoyés, on est là, on ne fuit pas le combat. Voilà. Il ne nous demande pas de trouver des solutions. Il nous demande de ne pas refuser le combat. Voilà. C'est ce qu'il nous demande. Sois là. Ne refuse pas le combat puisque c'est pour cela, tu as été préparé pour cela. Maintenant, tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu es là. C'est-à-dire, on est là. On va lutter, on ne sait pas comment. Comme David qui a lutté contre Goliath, ne sachant pas comment, parce qu'il a pris des pierres, 5 pierres en désordre. Il ne savait pas trop, mais il savait qu'il allait remporter la victoire. Je ne sais pas si on peut lire ce texte-là. 1 Samuel 17, 20, 37. Je crois qu'on a le temps, oui. 1 Samuel 17, 20, 37. David qui nous donne la leçon du passage de l'entraînement. Même si parfois l'entraînement peut être costaud. Hein. On ne dit pas que nos prières sont toujours faciles, nos concerts sont toujours faciles. Non, pas du tout. Ça peut être parfois difficile, mais oui, mais il y a des événements plus grands qui nous attendent. Donc, on doit être attentif. 1 Samuel 17, 20 à 37.
David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. »
Amen. Va et que l'Éternel soit avec toi. Donc même Saül a retrouvé la foi. Parce qu'un homme responsable n'envoie pas un enfant comme ça. Donc même Saül a retrouvé la foi. David a donné les explications. Contrairement aux soldats. Les soldats, qu'est-ce qu'ils étaient ? Qu'est-ce qu'ils faisaient au verset 20 ? Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Donc les gens se préparaient avec des cris de guerre. Mais qu'est-ce que vous dites dans ces cris de guerre-là ? Certainement, notre Dieu est le plus fort. Israël vainqua. Mais dès que Goliath s'est avancé, les gens ont oublié tout ce qu'ils disaient dans les cris de guerre. Tous les mouvements, ils ont tout oublié. La présence de Goliath a effacé leur cerveau. Et beaucoup de gens, face aux événements, ils oublient tout ce qu'on a prêché, tout ce qu'on a chanté. Dès qu'il arrive à la maison, lui, il pensait qu'on va trouver la même atmosphère qu'à l'époque. Avec les bien-aimés, tu arrives à la maison, tu trouves une autre atmosphère. Voilà. Au lieu de se dire, j'ai été préparé à ça, non. Mauvais comportement. Dieu dit, mais voilà. Mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que tu viens de faire avec les bien-aimés dans l'assemblée ? C'est ça, bien-aimé. Quand les événements arrivent, tu es au travail, persécuté. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Il a dit dans 2 Timothée 3:12. Ceux qui servent Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Il nous a parlé de ces événements à l'avance. Il y aura de tels événements, des tribulations, il y aura tout ça. Donc quand ça arrive, notre prédication d'aujourd'hui, c'est quoi ? Quand ça arrive, qu'on fasse un travail de souvenir pour se dire, mais le Seigneur nous avait prévenus. Et dans un autre verset biblique, le Seigneur dit, je vous ai prévenus. Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez prévenus. Nous sommes prévenus du fait que c'est les embûches qui vont nous attendre. Les événements contraires qui nous attendent. Mais c'est afin que le Seigneur glorifie son nom. C'est ça qu'on doit accepter. Et quand ça arrive, on veut t'exploiter, toi tu résistes. Or le Seigneur a dit, on veut te faire marcher pendant un kilomètre, marche un kilomètre de plus. Donc on veut t'exploiter, laisse-toi exploiter, mais parce qu'il faut que l'amour et la bonté triomphent de la méchanceté. Mais l'amour et la bonté triompheront de la méchanceté, pas en se comportant comme les méchants, mais ça en allant encore plus loin dans l'amour et la bonté. Et on nous a prévenus. David, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Dieu m'a donné la victoire sur l'ours et le lion. C'était des entraînements. L'événement, c'est celui-là maintenant. C'était des activités. Là, Dieu m'a préparé en réalité. Il a fait le lien. Il a dit, en réalité, Dieu m'a préparé à ça. Bien-aimé, je ne demande pas toujours de faire le lien d'une manière compliquée. Non, de dire tout simplement, Dieu nous a prévenus qu'il y aura des tribulations. Maintenant, elles sont là. Nous ferons face. On ne sait pas comment, mais nous ferons face. On ne fuit pas. On ne pleure pas, on fait face, c'est tout. On doit être prêt à mourir pour sa foi. On fait face. Et que Dieu démontre qu'il est Dieu. Mais nous, on ne va pas se défiler. Vous savez, il faut se dire que je suis partenaire avec Dieu. Entre moi et lui, moi je ne fuis pas. Que Dieu aussi montre que lui aussi n'a pas fui. On est ensemble. Voilà. Ce n'est pas moi qui veut me défiler. Je suis là. Et comme Dieu, lui, ne se défile jamais, lui aussi sera là. Faisons comme David. Faisons le lien entre la préparation, les activités, les entraînements et les événements et la réalité. La réalité dure. Je vous ai souvent raconté cette histoire-là de cet étudiant gabonais qui est sommé par son professeur parce que son professeur avait compris que le père de ce garçon-là était riche. Et le professeur le somme de lui donner des sous pour qu'il ait de bonnes notes dans sa matière. Mais malheureusement pour ce professeur, cet étudiant-là était un chrétien véritable. Il lui dit, mais je ne peux pas. Entre guillemets, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pratique courante dans nos régions d'Afrique centrale de corrompre des professeurs. Et c'est une fierté que le professeur, ce soit lui qui t'aborde, au lieu que toi tu le cherches pour le corrompre. Mais le garçon dit, je suis chrétien, je ne peux pas. Le professeur déstabilisé par un tel refus, parce que quand un professeur t'aborde, c'est plutôt un honneur. C'est dire, ah bon d'accord, professeur, je vais te chercher quelque chose. Mais non, il dit, je ne peux pas, je suis un chrétien. Déstabilisé, il va dans le bar retrouver ses amis qui lui tirent les oreilles. Quoi, tu t'es laissé dominer par un petit? Menace-le! Le professeur revient à la charge le lendemain. Il dit, petit, mais toi, je t'ai demandé de me faire quelque chose. Il dit, je ne peux pas, je suis chrétien. Je t'avais déjà répondu. Le professeur a maintenant augmenté la menace. Et c'est comme ça que ça se passe toujours avec Satan. Il augmente encore la menace. Il dit, mais tu ne sais pas que moi, je peux faire que tu reprennes cette année. Donc, je peux agir non seulement sur ma matière, mais sur ton année dans l'ensemble et que tu la reprennes cette année. Or, une fois de plus, dans nos milieux d'Afrique centrale, reprendre une année est une vraie honte. Les gens n'aiment pas ça. Et donc, ce garçon-là, il pouvait dire quoi ? Il pouvait dire, j'ai un père qui est riche. C'est pas grand-chose, je lui donne l'argent, mais moi, je sais que moi, je travaille bien, je prépare bien mes cours, mais je lui donne ses sous et puis il arrête de m'embêter. Il pouvait aussi dire quoi ? J'ai un père qui est riche. Il peut utiliser son influence pour s'imposer sur ce professeur-là. Il pouvait se dire quoi ? J'ai un père qui est riche. Il peut porter plainte à la justice contre ce professeur. Mais non, ce n'est pas ce que lui a appris dans les activités de l'Église, dans les enseignements, dans les entraînements. Ce n'est pas ce que lui a appris. Lui a appris dans les entraînements que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il a appris dans les entraînements, dans les activités, dans les enseignements, dans les prières. Il a appris que c'est Jésus qui contrôlait tout. Quelle est la réponse qu'il donne à ce professeur? Il dit, si Jésus veut que je reprenne, ben j'accepte de reprendre. Il n'a pas dit, attention professeur, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein? Dieu te maudira. Non. Il a compris qu'on doit être vainqueur du mal par le bien. C'est ce qu'il a toujours entendu dans les entraînements. Quand on lit, mais quand on dit ça dans l'assemblée, tout le monde est d'accord. Il faut être vainqueur du mal par le bien, Romains 12. Mais dès que tu rentres à la maison, c'est le tour de l'autre de faire la table ou de faire la vaisselle. Il n'a pas fait. Allez, tu commences à crier. Or, tu viens d'écouter dans l'assemblée, il faut être vainqueur du mal par le bien. Au lieu de dire, bon, comme tu fais toujours des problèmes, je vais le faire à ta place. Rien! Et là, on dit, mais non, ce n'est pas juste. Non, mais nous, chrétiens, nous ne fonctionnons pas selon cette justice-là. On a notre juste. En fait, notre justice, c'est un homme, c'est Jésus. Et donc, ce garçon-là, il passe de l'entraînement à la pratique. Il dit, si Jésus veut que je reprenne, je reprendrai. Si je dois me sacrifier pour rester honnête et glorifier mon Dieu, je le ferai. De toute façon, lui, il a fait aussi ça, la même chose pour nous. Le professeur s'est agenouillé. Il a dit, prie pour moi pour que je devienne comme toi. Ça l'a dépassé. Un tel attachement à Jésus l'a dépassé. Et bien aimé, ce n'est pas les activités, tu viens tous les jours. Non, c'est quelle réponse tu donneras face aux événements. C'est ça qui va être déterminant sur l'avenir de beaucoup d'humains et de ton propre avenir. Face aux événements, tu réagis comment? Bon, c'est là que c'est ça qui est important. On n'est pas contre les activités. Mais comprenons que toutes les activités que nous faisons, ce sont des entraînements pour des événements majeurs où c'est là qu'on doit dire, ben maintenant, on peut couper ma tête. C'est en ce moment-là. C'est pour ces situations-là. Ce n'est pas pour juste remplir, devenir des brebis grasses. Non, il y a des événements qui nous attendent. Quand on voit des païens dire, ah non, la France est injuste, Elle use des manipulations avec l'Union européenne pour mettre les désordres dans les autres pays. Et il y a des immigrés ici, on veut encore les maltraiter. Moi, je vais les accueillir chez moi. Et des gens comme ça, ils ne gagnent rien. Mais il a juste compris que c'est l'esprit de justice veut qu'il fasse quelque chose. Et il se retrouve en procès à cause de ça. Mais il n'est même pas chrétien. Mais nous, on doit comprendre que tout ce que j'entends dans les enseignements, tout ce que j'apprends, mais un moment vient où on me dit que voilà la situation. Je dis, non, non, moi j'ai appris que Jésus était au contrôle. C'est pendant les événements. J'ai l'habitude de dire, les gens changent toujours quand il y a les événements. On les connaît réguliers dans les activités, persévérants dans les activités, mais quand ça devient une histoire de mariage, vous ne reconnaissez plus les gens. Quand ça devient une histoire de deuil, vous ne reconnaissez plus les gens. Quand ça devient une histoire d'enfanté, vous ne reconnaissez plus les gens. Quand ça devient une histoire de gros sous, vous ne reconnaissez plus les gens. Les événements nous montrent qui sont les gens en réalité. Mais ça ne veut pas dire que, puisqu'on a échoué à cause d'un événement, c'est fini. Non, ça peut nous aider à comprendre qu'on était léger. On s'est laissé avoir par les activités sans comprendre que c'est pour nous préparer. Comme Pierre, les événements ont montré qu'il n'était pas si courageux que ça. Pendant les activités, dans la tranquillité, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Là, quand tout est calme, il n'y a pas de... Dans l'église, on prie. Moi, je donnerai ma vie. Maintenant, une femme lui dit, mais toi, si tu étais avec Pierre, elle dit, mais non. La peur le saisit. Pourtant, il était courageux quand tout était calme, là. Il marche avec Jésus, il vient de multiplier le pain, tout est bon, on a bien mangé, on dit, Seigneur, moi, je peux mourir pour toi. Jésus dit, ah, mais attends l'événement. C'est pendant les événements qu'on va voir, c'est tout. Les histoires de, Ah oui, j'ai vu, j'agis. Mais quand tu arrives quelque part, tu agis charnellement, tu n'agis plus en esprit. Non. Non, on ne va plus se laisser impressionner par les activités. Quelqu'un qui brille dans les activités, on dit gloire à Dieu. Mais nous, les anges attendent seulement les événements. C'est tout. Parce que les événements, c'est le moment où tu dis, bon, ça y est. Maintenant, je meurs pour le Seigneur. C'est ça les événements. Ça y est. C'est ce qui est arrivé au Seigneur dans Jean 12. Il a dit, bon, maintenant, ça y est. C'est le moment de mourir. Et les événements, c'est ça, tu te dis. Je sais que, en apparence, je vais perdre, mais je perds pour le Seigneur. Voilà. C'est ça les événements. On est fatigué du discours, des blablabla. On veut aller plus loin avec le Seigneur. On veut que le monde soit touché. On veut que nos voisins soient touchés. On veut que les choses changent. Et Dieu nous attend dans les événements. Comment nous allons réagir? C'est cela. Quand on t'apprend une mauvaise nouvelle, c'est ça l'événement. Comment tu réagis? Nous devons dire, Seigneur, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Ta parole est la vérité. Je ne bouge pas. Les gens vont se moquer de toi en disant, mais voilà, tu te retrouves endetté. Où est ton Dieu? Tu ne bouges pas. C'est écrit, Dieu ne sera le débiteur de personne. Comme toi, tu es son enfant, donc c'est comme si c'est lui qui était endetté. Tu ne bouges pas. C'est ça les événements. On reste sur la parole. On reste sur la foi. Malgré les apparences contraires, vaut mieux mourir s'il le faut dans la foi que vivre dans la médiocrité chrétienne. Il dit non, Dieu est plus fort. Et si je dois en payer de ma vie pour cela, ben je paye. Donc deux choses, bien-aimés. Les entraînements et les activités, c'est pour nous préparer aux événements. Et deuxièmement, c'est pour nous amener à marcher par la foi. C'est-à-dire à vivre dans l'invisible, de l'invisible, alors qu'on est dans la réalité. Mais se servir de la parole de Dieu, se servir des prières pour affronter la réalité contraire et vaincre. C'est cela. Que nous ne nous laissions pas voir par la routine, mais soyons éveillés. Comprenons que on a une mission et Dieu, dans sa bonté, même quand nous on néglige la mission, il va imposer des événements pour nous faire entrer dans la mission, comme il l'a fait dans Actes 8, à partir du verset 1er. Et quand on sent que Dieu nous force à entrer dans les combats, dans les événements, on entre et Dieu sera avec nous. En tout cas, c'est cela, bien-aimé, qui était dans mon cœur, qu'on passe des événements, des entraînements aux événements, dans la victoire, par la foi, au nom de Jésus. Amen.